soit avec vous. Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, un jour, quand j'étais au séminaire, j'ai eu un accident de voiture. Rien de grave, pas de blessé, mais il y avait beaucoup, beaucoup de tôles froissées. C'était quand même assez impressionnant. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait dans ces cas-là? On a fait, ben, forcément, un constat à l'amiable. C'est vrai que c'est quand même mieux de faire un constat à l'amiable que il y en a un qui porte plainte, qu'on aille au tribunal, etc. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Ben, vous l'avez compris. C'est pas que je suis engagé dans une compagnie d'assurance, etc. C'est pas du tout pour ça. C'est parce que dans l'évangile de ce dimanche, Jésus a l'air de nous dire de faire la même chose. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. Donc voilà, on a l'impression que Jésus nous dit ça. Ben voilà, au lieu d'aller porter l'affaire devant les autorités de l'Église, ben, essaye de te réconcilier avec celui avec qui tu as un problème, qui t'a fait du mal, etc. On a l'impression que Jésus nous expose le principe du constat à l'amiable. Et effectivement, souvent, on peut lire ce passage d'évangile comme ça. Jésus nous dit de nous réconcilier les uns les autres. Mais franchement, si c'est juste ça l'évangile, ça ne sert pas à grand-chose, parce que ça, c'est juste un conseil de bon sens. C'est sûr, c'est vrai, hein, il vaut mieux se réconcilier avec les autres plutôt qu'aller recourir aux autorités, parce que tout le monde est perdant. Hein. Quand on passe devant le juge, tout le monde finit par être perdant, généralement. Mais la parole de Dieu, c'est pas d'abord des conseils de bon sens, parce que ça, c'est un conseil de bon sens. On n'a pas besoin de l'Évangile pour nous dire ça. On le comprend très bien par nous-mêmes. Or, l'Évangile, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est une parole de vie, une parole qui nous donne la vie, qui n'est pas là pour nous dire seulement des banalités, des choses de bon sens, qui est là pour nous dire des choses profondes qui transforment notre vie. Alors, j'aimerais avec vous approfondir le sens de ce passage. Que nous dit Jésus exactement? Eh bien, pour bien comprendre le sens de ce passage, à mon avis, il faut regarder ce qui est juste avant. Juste avant ce passage, dans l'évangile de saint Matthieu, c'est une autre parabole, une parabole très connue, la parabole de la brebis égarée. Vous savez, la parabole de ce berger qui a 100 brebis, qui en perd une, qui laisse les 99 autres dans la montagne pour aller chercher celle qui est perdue. Et cela, ça éclaire énormément ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Jésus ne se contente pas de nous dire qu'il faut se réconcilier les uns avec les autres, bien s'entendre. Jésus nous dit non. Il faut, si ton frère s'égare, qui est représenté par cette brebis perdue, va le lui dire. Si ton frère s'égare dans le péché, va le lui dire. Ne le laisse pas se perdre. C'est beaucoup plus que simplement réconcilie-toi avec ceux qui t'ont fait du mal. C'est « je suis responsable de mon frère ». Cette brebis qui part, j'en suis responsable. Et c'est pour cela que je dois éventuellement lui faire des reproches quand il prend un mauvais chemin, quand il fait quelque chose de mal. Et cela, ça rejoint une ligne extrêmement importante de toute la Bible, de tout l'Ancien Testament notamment. L'Ancien Testament nous dit qu'il faut dénoncer le péché, pas seulement quand on est victime soi-même du péché, pas seulement pour avoir des excuses, pour avoir un dédommagement, mais dans l'intérêt du pécheur lui-même, parce que le péché, ça détruit. Et donc il faut le dire au pécheur pour qu'il puisse changer son comportement. C'est la mission qu'a reçue le prophète Ézéchiel, vous avez entendu dans la première lecture. J'ai fait de toi un guetteur. Un guetteur, bien entendu, c'est quelqu'un qui se tient plus haut. Et donc il voit plus loin que celui qui est resté en bas, il voit le danger qui arrive avant que le danger soit tout près, et donc quand on peut encore réagir, quand on peut encore faire quelque chose. Ézéchiel a reçu la mission de dénoncer le péché, pas seulement pas le péché dont il est victime d'abord, mais le péché dans l'intérêt de celui qui fait du mal, pour qu'il puisse changer, parce que le péché ne mène pas à la vie, le péché mène à la mort. C'est cette belle mission qu'a reçue Ézéchiel, cette mission de guetteur. Et ça nous dit deux choses, à mon avis, très très importantes sur le péché. D'abord, ça nous dit quelque chose de très simple, mais qui n'est pas forcément très facile à recevoir. La première chose, c'est que le péché conduit à la mort. C'est ce que nous dit Ézéchiel. Il mourra de son péché. Si des actes sont des péchés, c'est pas parce que quelqu'un a décidé que c'était des péchés, c'est parce que ce sont des actes mauvais qui mènent à la mort. Il mourra de son péché. Et souvent, nous tous, moi le premier, dans notre société, on a une conception assez relativiste de la morale. Avec la mondialisation, on sait bien qu'on connaît bien un peu la planète, donc on sait qu'il y a des sociétés différentes, avec des normes, des valeurs différentes. On connaît aussi bien l'histoire de notre monde, on sait qu'il y a eu des civilisations, des sociétés différentes qui se sont succédées sur la planète. Et donc la tentation est grande de se dire, ben voilà, ce qui est bon pour une société, à un moment donné de l'histoire, sera peut-être considéré comme mauvais à un autre moment. Ce qui était péché à un moment dans une société ne sera plus tel dans une autre société. Finalement, ça dépend des temps, des lieux. Eh bien non, la parole de Dieu nous dit exactement le contraire. Alors c'est sûr, il y a des variations, il y a des valeurs, des normes différentes dans les sociétés, mais le péché, c'est tout autre chose. Le péché, c'est ce qui fait mourir, soit physiquement, soit spirituellement, soit humainement. Le péché fait mourir. Et ça ne dépend pas du jugement de la société. Il y a des conduites qui comportent en elles-mêmes quelque chose qui ne va pas vers la vie. Et la deuxième chose que nous apprend ce texte d'Ézéchiel, c'est que le péché comporte une forme d'illusion. On s'en rend plus compte quand on commet le péché. C'est pour ça que Dieu a besoin d'envoyer des prophètes, des guetteurs, pour le dire aux autres. Celui qui fait le péché, finalement, finit toujours par considérer cela comme normal. Il ne se rend plus compte. Et puis, quand il s'en rend compte, souvent, il est trop tard pour réagir. C'est pour ça qu'il faut des prophètes, que Dieu envoie des prophètes à son peuple pour dire le péché que le pécheur ne veut pas voir ou ne peut pas voir par lui-même. C'est cette mission extrêmement importante de guetteur. Et c'est notre mission, parce que nous sommes appelés, nous aussi, à être des guetteurs, des veilleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tous se transformer en donneur de leçons, commencer à faire des leçons à tout le monde, faire des reproches à tout le monde, sinon on va vite se rendre insupportable à tout le monde, moi le premier. Et l'Évangile nous apprend quelque chose d'important, qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que, c'est sûr, il faut dire le mal, mais tout cela doit se faire dans une relation de fraternité. C'est le mot qui revient toujours dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Faire des reproches, c'est sûr, dire le péché, mais pas dans une relation de supériorité, de jugement, dans une relation de fraternité. Et ça nous apprend quelque chose de très important sur ce qu'est la fraternité. La parole de Dieu nous éclaire sur ce que c'est que la fraternité. C'est sûr, on a la fraternité dans la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Mais souvent, on est bien en peine de définir ce qu'il y a derrière ce mot de fraternité. Qu'est-ce que c'est que la fraternité ? Eh bien, la parole de Dieu aujourd'hui nous éclaire là-dessus, sur quelque chose d'important de la fraternité. Être fraternel, être frère de l'autre, c'est se soucier de lui, se soucier de son salut, se soucier de ce qu'il devient, se soucier du chemin qu'il prend. C'est ça, être fraternel. Quelle différence avec la mentalité ambiante de notre monde où on se dit, il faut être tolérant, il faut accepter tout le monde, chacun fait ce qu'il veut, je ne juge personne, tu peux faire ce que tu veux tant que ça te rend heureux, on entend ça à longueur de temps, à longueur de temps. Mais ça, c'est pas la fraternité, ça c'est juste de l'indifférence au sort des autres, parce que nous savons que tout n'est pas bon, et donc la fraternité, c'est se soucier de l'autre et des chemins qu'il prend. Est-ce que je me sens responsable des autres ? C'est la question qui nous est posée aujourd'hui. Est-ce que je me sens concerné par leur salut ? Est-ce que je souffre que d'autres se perdent. Est-ce que je suis préoccupé par le salut du monde ou bien est-ce que je considère que ma foi chrétienne, c'est juste quelque chose qui me concerne, qui me fait plaisir, qui m'aide, mais qui ne concerne pas le monde? Voilà la question. Se soucier du salut des autres, mais s'en soucier comme du salut d'un frère, de frères qui nous sont donnés. Vous avez noté dans les règles qui sont données dans l'évangile de ce jour, toutes ces règles, le but, c'est toujours la fraternité. Le but, c'est de gagner le frère. Tu auras, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Vous voyez, toutes les règles qui sont données avec cette procédure où l'exclusion arrive en dernier, le but, c'est toujours d'essayer de garder le maximum dans l'Église. Et ça, c'est très important. Ça nous dit quelque chose d'important sur ce que c'est que l'Église. L'Église, vous voyez, c'est tout le contraire d'une secte. Quand vous entrez dans une secte, on vous dit, voilà, ici, c'est la secte, c'est les bons, le monde est mauvais. Si tu veux venir avec nous, tu dois être d'accord avec tout, tu dois être d'accord avec ce qu'on fait, tu dois partager tout ce qu'on fait, sinon, tu pars. Et bien, l'Église, c'est précisément l'inverse. L'Église, son but, c'est pas d'exclure, c'est de rassembler le plus possible, au maximum. Pas rassembler uniquement ceux qui sont bien dans les clous, ceux qui sont comme il faut, mais faire le maximum pour garder tout le monde, y compris cette brebis égarée, celui qui a du mal à respecter les préceptes. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Le but, c'est de gagner nos frères, pas de garder que ceux qui sont bien dans les clous. Et vous voyez qu'il y a quand même une possibilité d'exclusion dans l'Évangile, mais ça arrive vraiment s'il refuse encore d'écouter l'Église, quand il y a un refus obstiné, et nous savons que dans l'Église, il n'y a en réalité jamais d'exclusion définitive, la porte est toujours ouverte pour le retour, pour le pardon. Ma vocation, c'est cela, notre vocation de chrétien, c'est cela. Gagner les frères, pas de les exclure. Est-ce que j'ai conscience que je suis appelé à cette fraternité? Et en particulier dans notre Église, on sait très bien que dans l'Église, il y a des sensibilités différentes, dans les paroisses, il peut y avoir des désaccords, des choses, plein de choses comme ça. Ça, c'est normal, c'est pas grave. Mais est-ce que je vis ces éventuels désaccords, ces différences sur un fond de fraternité? Ou bien est-ce que je considère que seuls ceux qui partagent mes idées sont importants pour moi? Donc il faut dire le péché, c'est à ça que nous sommes appelés aujourd'hui. C'est cette mission de guetteur qu'ont reçu les prophètes. Mais le but, c'est toujours la fraternité. Et pourquoi cette fraternité, elle est si importante? Pourquoi elle est répétée tant de fois dans l'évangile de ce jour? Pourquoi elle est si importante? Eh bien, parce que le projet de Dieu, c'est de rassembler les hommes. Nous, parfois, on a une approche individualiste de notre foi chrétienne. La foi m'aide à bien vivre. Elle me donne des préceptes sur ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire, et ça m'aide. C'est une approche individualiste de la foi. Et c'est vrai, la foi nous aide. Mais le projet de Dieu est beaucoup plus grand que cela. Le projet de Dieu, c'est pas de nous sauver un individuellement. Le projet de Dieu, c'est de nous sauver en nous rassemblant, en un peuple uni, tourné, tous les hommes tournés dans la confession, tournés vers Jésus, vers le Christ, confessant le nom du Christ. Et c'est pour ça que l'unité, la fraternité sont si importantes. Dieu veut que nous soyons rassemblés en frères. C'est son grand désir, son grand projet. Et quand nous sommes rassemblés en frères, eh bien, il consent à venir habiter parmi nous et à faire des merveilles. C'est la phrase qui termine l'évangile. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon frère qui est aux cieux, de mon père, pardon, qui est aux cieux. Si des frères se mettent ensemble, alors Dieu fait des merveilles parmi nous. D'où l'importance de vivre cette fraternité et pour cela de dire nos péchés qui nous séparent les uns des autres et qui nous séparent de Dieu. Alors c'est pas évident de vivre la fraternité, nous savons que c'est difficile. Mais réjouissons-nous parce que Dieu a voulu envoyer son Fils pour rétablir la fraternité. Cette fraternité que nous avons tous tendance à briser par nos péchés, Dieu a envoyé son Fils pour nous faire le don de la fraternité, pour nous réconcilier les uns avec les autres et tous avec Dieu. C'est ce que nous célébrons dans chaque Eucharistie. Rendons grâce pour ces merveilles de Dieu.